One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Alors, on va ouvrir officiellement le festival, parce que j'étais pas très officiel.
Nous déclarons ouvert le 72e Festival International du Film de Cannes.
C'est fait. Ouf.
Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 4. Je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en direct du Festival de Cannes. Il pleut encore plus que jamais. On est mouillé.
Et aujourd'hui, on a perdu mon parapluie.
Et voilà. Et
en plus.
Vous l'avez reconnu déjà, je suis en compagnie de Daniel Andreev qui est très très énervé qu'on lui ait volé son parapluie Godzilla.
Un parapluie Godzilla auquel je tenais beaucoup. On a Tokyo en transparence.
RIP.
Merci.
Ne laissez pas vos parapluies à la consigne.
C'est pas traîner ton parapluie. Laisse pas si tu veux pas qu'il glisse.
On a la forme, c'est la deuxième semaine.
pas besoin d'introduction pour Perrin Kenson qui tout de suite pose son flow. Et d'ailleurs, on va pouvoir l'applaudir parce qu'elle va nous parler d'applaudissements.
Perrin au mic.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
À toi, Perrin.
Je vous préviens, en effet, vous allez entendre beaucoup de claps dans cette séquence. Car Cannes, c'est un sport pour les jambes, certes, qui court, qui se plie pour s'asseoir et qui reste toute droite comme des piquets dans les files d'attente. Oui, je suis en boucle sur ce sujet douloureux des files d'attente, mais voilà. Mais c'est aussi un entraînement pour les mains. Le clap, ça peut être en salle à la fin d'une projection quand un public ultra enthousiaste applaudit à tout rompre un ou une artiste en standing ovation pour un combo main-jambe. En l'occurrence, ici, c'était pour Céline Sciamma qui présentait Portrait de la jeune fille en feu, dont nous vous parlerons un peu plus tard dans l'émission. Le public enchanté, visiblement, a tenu ainsi pendant un bon 10 minutes. Il y a eu un bon 10 minutes de standing ovation. Enfin, je me suis barrée avant la fin, mais ça faisait déjà 10 minutes. Autre salle, autre ambiance, mais toujours un public au taquet. Là, on clappe en rythme pour soutenir le danseur de Port Authority, film dans le monde qui se passe dans le monde du voguing, présenté à un certain regard. Et donc ce danseur, à la fin de la projection, il nous a fait une petite représentation. C'était camp, c'était fou, c'était joyeux, c'était incroyable. Et c'est là qu'on se dit que finalement, parfois, ça manque d'image, la radio, parce que j'aurais bien voulu vous faire voir sa prestation de voguing. C'était vraiment, vraiment canon. Et enfin, on va terminer sur du clapping et hurlement en rythme.
Du micro d'argent, plus fort des gros. Du micro d'argent, ouais, les gros. Du micro d'argent, jusqu'au fond, les gros. Du micro d'argent.
C'était à la soirée d'Orange, devenue The Soirée à ne pas rater depuis 3 ans, qui accueillait IAM en concert. Et dans une salle un peu comprimée à cause de la pluie, hein, tout le monde était entassé. Donc il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'était intense, hein, ce concert, tellement qu'il y a une femme qui a dû se faire sortir à cause pour malaise. Donc vraiment, on était sur de l'intensité. Et c'était pas moi, même si j'ai failli, parce que vraiment, on était un petit peu serré. Et j'ajoute que la moyenne d'âge de cette soirée, c'était quand même plutôt autour de 50 ans. Donc IAM, ça crée un petit décalage, pas piqué des hannetons. D'ailleurs, Akhenaton a carrément dit à la salle de se détendre.
Sinon, c'est pas très long. Donc vous pouvez vous lâcher ce soir. Hein, c'est un concert de hip-hop. Ok, on va voir ça un peu plus tard.
Bon allez, je vais essayer de glaner quelques secondes de sommeil après cette émission pour reposer mes jambes et mes mains endolories par autant de sport cannois. JPP.
Pauvre Perrine, là,
on est épuisé, mais on voit que des films. on n'a aucune excuse, on est assis sur des fauteuils.
Mais on a clapé un peu aussi parce que ça nous fait une transition avec le premier film dont on va pouvoir parler, Les Siffleurs de Corneliu Porumbuiu. Parce qu'on est allé voir ce film roumain en projection presse à 22h. Les gens étaient un peu rincés de leur journée. Et le film s'ouvre sur The Passenger. Ah, et les gens étaient sur chaud. Ils ont commencé à taper des mains dans la salle de presse. C'était le top de la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans une projection presse. Ce n'est pas toujours le cas. Et derrière, on savait pas forcément trop à quoi s'attendre avec Corneliu, qui fait parfois des films un petit peu lourds à digérer. Là, finalement, c'était une sorte de petite comédie policière. L'histoire, c'est en fait une sorte de film de casse avec un policier de Bucarest qui va se retrouver embarqué dans une histoire de corruption, de trafic de drogue, de matelas avec des millions en billets cachés à l'intérieur, et qui va partir sur une île des Canaries pour apprendre à communiquer en sifflant.
Et le pitch est quand même assez fou.
Ouais, c'est assez bizarre.
On l'avait déjà repéré dans les pitchs un peu fous et ça se confirme.
Et du coup, voilà. Et aussi, un aspect très important qui est l'arc narratif, il y a une jeune femme qui est un peu tapée dans l'œil de Daniel pour rien
pourquoi
vous dévoiler.
Pourquoi tout le monde
non, c'est toi qui vas parler, mais en tout cas qui s'appelle Catherine Elmarlon voilà, qui est l'enjeu romantique, entre guillemets, sous ce film de casse. Alors qu'est-ce que tu as pensé du film, Daniel ?
S'il y avait un film qui justifie l'Union Européenne, c'est celui-là. C'est simple.
Pensez à voter d'ailleurs.
Quand vous allez voter le 26 mai.
Dimanche prochain.
En espérant que vous allez voter ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais pensez à ce film et pensez à tout le bonheur que ce film va vous apporter. Parce que c'est la preuve que tout ça n'a pas été vain. Puisque ce film se déroule un peu en espagnol, beaucoup en roumain et un petit peu en anglais. Parce que l'anglais étant la langue de base quand personne ne se comprend.
Pas mal en sifflet.
Et aussi en sifflet. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que, au bout d'un moment, il y a ce moment absurde où les gens sifflent contre des montagnes et puis la montagne lui répond. C'est assez rigolo à voir. Et en même temps, ça reste un polar qui est très bien filmé, avec des très belles couleurs. Ça donne envie d'aller là-bas, ça donne envie d'aller dans ces îles de la Gomera. T'es embarqué, j'ai été embarqué. Il y a plein de failles logiques quand même dans ce polar, parce que tu te demandes pourquoi les mecs se cassent pas avec le pognon dès le début, parce qu'ils ont ils ont des billets sans doute sous le matelas, on va pas spoiler. Mais il y a des trous logiques dans cette histoire qu'il faudrait recomposer avec sans doute une expertise roumaine ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce film m'a emballé alors que j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit, écoute, l'absurde du pitch va peut-être fonctionner. En plus, tu l'as mentionné, David, il y a un côté follement sexy dans ce film. C'est pas Vlad Ivanov, qui pourtant ressemble énormément à Michael Keaton.
Ah bah, premier plan, j'ai dit, putain, c'est Michael Keaton. C'est le Michael Keaton roumain. On l'a trouvé.
Et c'est exactement ce qu'on a pensé. Et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui a pensé comme moi. Et alors,
bon, je l'ai dit à Anaïs qui était à côté de moi, elle dit n'importe quoi.
Je l'ai dit à mon
voisin. Vous êtes deux contre un, a priori.
Je l'ai dit à Hugo, il m'a fait meurtre.
Ah non, bon, alors.
On a chacun notre comparse.
On n'est pas très physionomiste.
Visiblement.
Et Catherine, c'est évidemment Catherine Elmarlon qui a vraiment une beauté fatale de type Monica Bellucci dans L'Appartement, quoi. C'est vraiment à ce niveau de calibre de magnétisme à l'écran, de sexy, c'est vraiment une torpeur qui s'installe. Tu ne pouvais pas imaginer la Roumanie plus sexy que ça. Non, vraiment, c'est un film vraiment chaud. J'ai adoré ce polar. Voilà, c'est une de mes plus grosses surprises. C'est vite emballé. C'est pas très long en plus. Il a le bon goût de pas nous faire perdre notre temps. Voilà, j'ai adoré Les Siffleurs ou La Gomera, comme on dit.
Ouais, moi le film m'a bien plu, notamment pour son écriture. Alors, c'est vrai qu'il y a potentiellement des failles, mais en fait, comme pour le coup, par rapport à d'habitude, le rythme est assez enlevé, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir dessus. Et c'est Corneliu Porumbuyu, c'est un réalisateur qui avait fait. Il est toujours pas très loin de la farce. Le film qu'il a fait connaître, c'est Midi 8 à l'est de Bucarest, qui était une sorte de farce politique sur la question de qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment avant la chute de Ceausescu. Et il arrivait à en faire un truc qui devenait, dans sa dernière partie, complètement loufoque et dingue, avec une émission de télé hyper bien mise en scène. Et puis, il avait fait aussi Policier Adjectif, qui là était, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il faisait parfois du cinéma un peu plus dur à mâcher. Policier Adjectif, il faut quand même se le faire, parce que c'est une sorte de dénonciation à la fois des lourdeurs administratives et des aberrations en fait d'institutions comme la police en Roumanie, à laquelle il s'attaque encore avec les siffleurs. Et puis son précédent film, enfin le dernier film qu'il avait présenté à Cannes à l'époque, à Un certain regard, c'est Le Trésor, qui était un très beau film, très poétique, sur l'histoire d'un potentiel trésor à déterrer. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'assez satisfaisant au bout du compte et qui repose vraiment sur l'écriture du scénario. C'est-à-dire que tu dis, ah ouais, il a placé ces éléments dans l'histoire pour qu'au bout du compte, ça nous amène à quelque chose. Et c'est vraiment pas mal. Et souvent, à Cannes, avec des films d'auteurs un petit peu pointus, on va se retrouver avec des auteurs qui laissent plein de portes ouvertes en disant ça va être un peu au spectateur de faire le boulot. Là, y a vraiment un sens de l'écriture qui est intéressant. On a vu un autre film de gangster.
Un autre film de gangster. Un peu sexy aussi, tu remarqueras.
Ouais, pour moins. Mais qui est en revanche visuellement extraordinaire. Il y avait Tarantino à cette séance et on s'est dit, à mon avis, qu'en voyant le film, il a dû prendre quelques notes. C'est un film de gangster chinois réalisé par Diao Yinan, qui avait eu l'Ours d'Or à Berlin pour Black Call. Tu avais dit, Daniel, dans la première émission, que tout le monde allait dormir devant.
Que ça allait être la sieste, ouais.
Alors, on va pas mentir, certaines personnes ont dormi.
J'étais très médisant.
Ils ne sont pas là.
Parce que franchement, j'ai été assez happé, en fait.
Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est juste
Et oui, c'est le moment. En fait, il y a deux trucs.
C'est un peu le film. Là.
Donc le film s'appelle Le Lac aux Oies Sauvages.
Par-dessus les temps, sous l'un, j'ai vu passer les oies sauvages. Je suis en boucle. Hein. Non, désolé.
Tu nous avais prévenu. Bon.
J'avais prévenu. Mais ça surprend quand même.
Ça reste dans la tête.
Ah, Michel Delpech dans ta gueule, quoi. Ouais.
Ah, sacré Delpech.
Sacré Delpech.
Et donc, c'est un film de chasse à l'homme. En gros, un chef de gang et une prostituée vont se retrouver poursuivis à la fois par d'autres gangs qui leur en veulent et la police jusqu'au bout de la nuit. Et vraiment, l'expression convient parce que le film se passe quasiment entièrement la nuit. Ce qui est, là, pour le coup, une des raisons qui fait qu'on peut s'endormir facilement parce que c'est un peu sombre à l'écran.
La chromo est très, très, très sombre. Ouais.
Mais c'est aussi ce qui permet de faire des effets visuels vraiment extraordinaires. Ça utilise beaucoup de néons, d'effets de lumière. Il y a notamment une séquence qui commence comme une séquence de danse, puis comme une séquence de poursuite avec des personnages qui ont des chaussures qui s'allument. Et il fait des effets de lumière incroyables.
Il y a des scooters avec des petites diodes dessus aussi qui donnent des effets lumineux assez incroyables. Alors c'est pas Akira parce que ça reste quand même des scooters, c'est pas des motos, mais c'est quand même très très beau. C'est un peu la surprise en fait, parce que tout le monde allait se dire que ça allait être un espèce de tunnel avec des Chinois moustachus qui se parlent. C'est en général le cinéma de Diao Yinan est quand même qui est un peu connu pour son esthétisme. Tu as parlé de Black Call. Black Hole, ça se passe dans les mines, c'est tout noir, on voit rien. Et là, il y a quand même des espèces de faisceaux de lumière qui parfois surviennent et du coup qui rendent, qui embellissent les séquences parfois ultra gore de ce film. Ouais.
Il y a beaucoup plus d'action d'ailleurs, ça discute pas beaucoup hein, dans le film. Il y a vraiment beaucoup d'action, c'est des courses poursuites.
J'ai envie de dire, c'est reste quand même juste pour vous le vendre, c'est un John Wick qui bouge pas trop. c'est-à-dire c'est un John Wick immobile. Il est un peu coincé dans.
Il y a quand même de la décapitation.
Il y a de la décapitation. Il y a beaucoup de sions. Il y a des fellations. Il y a
un meurtre au parapluie.
Et j'ai raté ce film.
Ah non, mais, c'est extraordinaire. Il faut que tu le rattrapes.
Ah oui, non, mais de ouf. Film. Là, d'un seul coup, vous m'avez dit beaucoup de mots qui m'ont plu.
c'est vraiment. Et visuellement, c'est très, très beau. C'est notamment le même monteur qui est un monteur français, Mathieu Laclos. Diazanque l'année dernière. Y a des idées visuelles et des idées de montage extrêmement surprenantes.
C'est d'une beauté assez incroyable. Il faut le dire, l'inspecteur est joué par Liao Fan, qui est un peu un régulier de l'auteur.
Et qu'on avait vu aussi l'année dernière dans Les Éternels de Diazanque.
Diazanque, donc c'est le monsieur moustache attitré.
Et il y a aussi Tang Wai, qui était dans Un grand voyage vers la nuit de Bigan, le film qui avait son très long plan séquence en 3D l'année dernière, à un certain regard.
puisqu'on name drop, il faut aussi name dropper celle qui joue la, la prostituée, qui est Quailun May, ouais. Et qu'on a vu dans un film de Choyard, quand même, dans le All About Women, qui est un peu évidemment le mineur de Choyard, mais que j'aime un peu évidemment comme tous les films de Choyard. Et en même temps, il y a un truc qui se passe en fait en termes de entre les deux comédiens en fait, parce qu'ils ont une manière de se parler sans se parler en fait, que oui. atteignent c'est presque le buddy movie silencieux, mais en même temps ultra sexuel, puisque évidemment il y a une tension sexuelle, c'est incroyable entre les deux. Il y a mes décès les plus créatifs depuis John Wick 3, hein, donc je ne peux pas dire de mal de ce film.
Le meurtre au parapluie, il faut le voir.
Visuellement, c'est
génial.
C'est sidérant, c'est vraiment.
Il utilise beaucoup la transparence des. Les ombres, des toiles, des bâches. Enfin, il y a beaucoup de travail sur la lumière, sur les jeux de lumière. Enfin, c'est en fait même si parfois on comprend pas tout au détail de l'histoire, de qui est pour qui, contre quoi. Même s'il y a encore une fois plein d'idées visuelles pour repérer les personnages. Par exemple, le personnage principal, il a une cicatrice qui fait qu'on l'identifie super bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a aussi des personnages qui, des sortes de duos qui ont le même t-shirt ou des trucs comme ça qui font que.
Ou à un moment, il va mettre un maillot de foot pour bien se faire repérer par tout le monde.
En fait, c'est vraiment un pur film pour moi d'extase visuelle qui est très très bon candidat pour le prix de la mise en scène.
Exactement. Et tu as raison de le souligner, parce que si on s'attarde sur l'histoire, moi j'ai besoin d'un deuxième visionnage, parce que quand ils disent on va aller voir Dong Zhengzi, et c'est vraiment des trucs qu'ils disent, hein, on va aller voir Dong Zhengzi pour savoir, et moi je me suis tourné vers David, je lui ai dit c'est quoi, c'est qui, et ensuite il cherche quelqu'un qui s'appelle Huar, je le prononce à la mandarine, c'est Huar, et en fait il découvre que c'est pas Huar mais Huar, donc on sait plus à la fin ce qui se passe. Il y a des moments où j'étais complètement perdu.
Et d'ailleurs, la raison pour laquelle aussi c'est un film qui se comprend par le visuel, ça peut être l'anecdote pour finir sur ce film, c'est que le réalisateur a pris le micro à la fin de la projection officielle, après la standing ovation, pour dire qu'il voulait dire en fait aux spectateurs chinois que là, en fait, comme il y a le système de double sous-titrage, c'était sous-titré en français et sous-titré en anglais, qu'il ne pouvait pas mettre en plus des sous-titres en mandarin parce que le film est essentiellement dans une autre langue, un autre dialecte, qui fait que les Chinois qui parlent mandarin ne comprenaient pas la plupart des dialogues. Donc, il fallait vraiment que le film puisse se raconter juste par le visuel et pour moi, ça fonctionne très bien. Et alors on enchaîne avec un autre film de la compétition et c'est vrai que dans cette émission on peut parler de pas mal de films qui nous ont plutôt plu. Celui-ci, ni Daniel ni moi ne l'avons vu, c'est le film de Céline Sciamma qui passe aujourd'hui et que t'as vu Perrine, ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, c'est avec Noémie Merlant et Adèle Haenel, et qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien on est au 18e siècle dans un endroit non défini, on sait pas du tout où on sait qu'on y arrive par bateau, c'est tout ce qu'on sait. Et donc Noémie Merlant doit faire, elle joue Marianne, c'est une peintre, et elle doit faire le portrait de Héloïse, qui est jouée par Adèle Haenel, ce portrait pour qu'il soit envoyé à son éventuel futur mari, qui habite à Milan, pour qu'il valide ou pas le mariage, quoi.
Le
Tinder de l'époque, c'est ça, le Tinder un peu plus longué, quoi. Et donc en fait voilà, ces deux femmes vont cohabiter ensemble. Au début elle sait pas qu'elle est là pour ça. Parce qu'elle veut pas de ce mariage, Héloïse. Enfin, et donc faut la.
Comme dans Moulin.
Comme dans Moulin. Et donc finalement, elles vont se lier plus que d'amitié. On peut dire ça comme ça. Donc elles vont tomber amoureuses. C'est un film clairement sur le désir amoureux, le désir des corps, parce qu'on est très dans l'analyse des corps, parce que lié à la peinture évidemment. Comment on dessine un corps, comment on le regarde, comment on le et donc après comment on le touche aussi. Finalement, c'est ça qui va arriver au fur et à mesure du film. Et c'est assez honnêtement c'est très beau mais c'est très lent et ça met bien 40 minutes à démarrer. Il y a bien 40 minutes au départ où on est là genre alors après il y a le temps ressenti cannois où on est vraiment fatigué donc on le prend encore plus longuement mais il se passe pas grand chose et honnêtement pour moi ça dessert un peu le propos du film en fait. C'est 40 minutes au départ jusqu'au départ finalement de la mère qui est jouée par Valéria Golino. À partir de là, le film s'accélère un tout petit peu, et là, on rentre un peu dans le vif du sujet, et c'est vraiment très beau quand on rentre dans le vif du sujet sur cette histoire de désir, et un petit peu mythologique aussi, parce que tout le long, ce qui va traverser, c'est le mythe d'Oedipe, le mythe d'Orphée, qui va venir traverser le film, et en même temps, cette ville, cette île étrange où il n'y a pas un seul homme, il n'y a que des femmes, on croise que des femmes sur cette île. On a l'impression de l'île de Lesbos, en fait, finalement, encore une fois, dans la mythologie, on reste dans ces trucs-là. Et c'est assez fascinant. Voilà, on est plus dans l'idée du mythe. Pareil, je pensais au livre de Mona Chollet. Pendant tout le film, j'ai pensé au livre
Les femmes sont cachées.
Les femmes sont des sorcières.
Ah non, le son dernier sur
les sorcières. Ouais. Et parce que vraiment, il y a tout cette idée aussi, là, encore une fois, de qu'est-ce que la femme, le lien de la sororité, comment elles s'entraident. C'est assez beau ce que ça raconte sur les femmes. D'ailleurs, il y a un vrai message pour les femmes, en réalité. D'ailleurs, l'équipe technique est quasiment composée que de femmes. Le casting, ce ne sont que des femmes. Donc vraiment, on a quelque chose d'un petit peu politique à ce niveau-là, clairement, de la part de Céline Sciamma. Et en vrai, si je devais résumer le film en une seule phrase, je dirais c'est Call Me By Your Name, lesbien. Parce que littéralement, on est sur la même histoire. C'est une histoire exactement similaire. Et mieux, ça se termine exactement de la même façon.
Ah, spoiler.
Spoiler.
Mais vous savez pas ce que je...
Enfin, moi, j'imagine une histoire de pêche. Ça me paraît bizarre.
Non, ça se termine exactement de la même manière. C'est assez marrant d'ailleurs comment les films sont très, très parallèles, très, très à mettre en parallèle. Et là, en effet, la pêche de Call Me By Your Name, c'est un bouquin. Et une page, elles se baladent toutes avec un pin's page 28. C'est un lien avec le film. Si je vous dis ça comme ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais dans le film, vous comprendrez. Donc voilà, non, clairement, c'est un film qui est, c'est assez marrant d'ailleurs à quel point ils sont similaires. Je me demande à quel moment il a été écrit, parce que sinon, il y a une sorte de synchronicité des pensées entre James Ivory et le pitch de Sciamma, parce que les films sont terriblement proches, et même dans leur approche de cette découverte de la sexualité, de cette découverte du corps, cette découverte du désir, en fait. Vraiment de l'approche du désir, et le désir qu'on doit refouler parce que ce n'est pas accepté. Donc c'est assez joli à ce niveau-là. Moi, et tu l'avais dit en début de la première émission que Noémie Merlan était quelqu'un à surveiller. Elle est extraordinaire dans le film. Pour moi, je pense que c'est pris d'interprétation féminine. Elle est absolument parfaite.
La rédaction s'engage.
Je m'engage complètement. Elle est vraiment parfaite. Après, voilà, moi, je reproche vraiment ce rythme beaucoup trop long, beaucoup trop maniéré à plein de moments. Et on se dit, mais pourquoi ? Alors qu'il y a des moments où elle va filmer une sorte de simplicité entre ses actrices et ça sera super beau. Et le reste du temps, c'est très, très emprunté. C'est un petit peu casse-pied. La mise en scène, c'est pas ce qui est le plus heureux dans le Céline Sciamma. Mais après, au niveau de son histoire et du jeu de ses actrices, c'est assez brillant.
Bah, portrait ça me donne envie, hein. De la jeune fille en feu, bah, qu'on va peut-être essayer de voir tout
avec
à l'heure.
Avec un peu de chance.
Va falloir rentrer dans la salle.
Il va falloir que tu me files ton badge.
Je vais voir le honorer, moi.
Et on va terminer du coup avec un film dont normalement, je crois, à cette heure-ci, on n'aurait pas le droit encore de parler à l'antenne. Mais bon, comme on enregistre ce podcast, ça passe. C'est Une vie cachée de Terrence Malick. Qui revient en compétition à Cannes après sa Palme d'Or pour Tree of Life, qui entre-temps a fait 3-4 films alors que son rythme habituel était précédemment
de
beaucoup plus long.
De tous les 10 ans.
Voilà. Et c'est un film...
Ils sont l'urgence de la fin de vie quand même. Hein.
Ah, je sais pas.
Mais c'est exactement ça.
Mais c'est un film qui était en préparation depuis très longtemps. Je crois il y a déjà 2 ou 3 ans, il y avait des premières images, des premiers trucs qui filtraient.
C'est un projet de très longue date. Il était connu sous le pseudo qui était Radegund. En fait, il y a eu
qui correspond au village
Où se passe le film. Et il y a, il faut le dire, il y a 2 comédiens qui sont morts entre temps avant la sortie du film, puisque il y a Bruno Ganz. Donc c'est le dernier film. Et il y a Michael Nikiwicz qui est aussi décédé en cours de tournage. Non, juste... on le voit dans le film, hein, mais il est décédé depuis entre-temps. Donc du coup, ça sent la longue gestation quand même d'un projet. Et je plains le monteur, en fait, à chaque fois que je vois ça, parce que je me dis il a dû faire 60 heures de plan de coupe et débrouille-toi avec les pissenlits.
Après le style de Malick, alors c'est très intéressant. Donc juste pour raconter l'histoire, c'est pour le coup beaucoup plus facile à raconter que ses derniers films. C'est l'histoire d'un couple de paysans autrichiens pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le mari refuse de faire allégeance à Hitler et va du coup avoir des problèmes avec l'armée nazie. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, depuis Tree of Life, Malick était parti dans une veine de plus en plus expérimentale et notamment abstraite, avec un montage très très diffus qu'on retrouve ici dans sa manière finalement la plus simple et la plus lisible et la plus classique. Et on revient à quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus facile à aborder pour les spectateurs. Et moi, quelque part, je préfère. Qu'est-ce que tu as pensé du film?
Alors d'abord, il faut toujours se situer sur l'échiquier qui est malikien. Je suis très fan de Malick, jusque To The Wonder peut-être, qui est pour moi le film du point de rupture. Et là, donc oui, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus narratif. Alors, beaucoup plus narratif, mais il ne se passe pas grand-chose non plus.
Il y a une grande idée, celle que j'ai donnée d'ailleurs. Il veut pas faire allégeance à Hitler.
Et il va se faire arrêter.
Il veut pas s'engager et donc il va se faire arrêter.
Et pour le reste, c'est du pur Malick. Je pense que les 5 premières minutes de ce film sont sans doute les plus belles qu'il ait jamais tournées depuis très longtemps. Depuis Tree of Life, ça c'est certain. Évidemment, c'est un cinéma ultra panthéiste qui appelle à l'esprit des choses, à l'esprit des gens, à l'esprit de la nature.
J'avais annoncé des hautes herbes et des blés.
On les a eus.
C'est confirmé.
C'est quand même un.
Pourtant, c'est un classique. Ouais. C'est une figure magicienne.
En plus, c'est des paysans. On voit que des blés.
C'est un truc. C'est un trip. C'est un vrai trip. Il faut accepter aussi le côté complètement déiste. On a eu hier. On a vu Gaspard Noé qui disait "Proud to be an atheist". Enfin, voilà.
Faudra qu'on parle deux minutes de Gaspard.
J'ai envie de dire tant mieux pour toi, Gaspard. Là, on a "Proud to be" quelqu'un qui croit en quelque chose. C'est un film qui donne envie de se jeter à ses genoux et d'implorer les gens disparus. Enfin, c'est vraiment un truc ultra spirituel. Et évidemment, ça va être un point de rupture avec énormément de gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont qualifier ça de bondieuserie, et ça en est. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le côté complètement vraiment naturel de cette histoire, parce que c'est comme To The Wonder, c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre et ils peuvent plus s'aimer, voilà, et là ils peuvent plus s'aimer parce qu'ils sont séparés par l'armée allemande. C'est magnifique. Il y a, je pense, quand même un gros souci, et ça c'est ce qu'on appelle le souci Octobre Rouge, c'est que linguistiquement le film m'a un peu dérangé, ouais. Dans le sens où les soldats allemands, quand il s'agit de faire Schnell et Rose et tous les trucs de nazi Papa Schultz, c'est-à-dire faire le méchant nazi, il parle en allemand, en anglais. Et tout le film reste en anglais, ce qui est cap un peu compliqué, quoi. Alors que soit tu fais un choix, soit tu fais les accents et tout ça, soit tu fais Valkyrie et tu fais tout en anglais. Et là, du coup, on a l'impression qu'ils n'ont pas choisi. Les enfants, ils parlent allemand. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé de voir le juge qui parle complètement allemand et ensuite ça bascule en anglais et c'est un peu dérangeant.
Les personnages principaux parlent que en anglais, ouais. La voix fait en anglais et dès qu'il y a un nazi qui bouscule quelqu'un, c'est en allemand.
Schnell et Raus. Donc, ce qui est presque caricatural. Hein. Oui. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est qu'il s'agit de reproduire. Tu sens qu'il y a très très peu de moyens aussi en termes de décor, c'est-à-dire il y a juste un bunker, deux pièces, c'est vraiment très très limité. Et comme c'est Terrence Malick, c'est souvent un travelling continu dans la salle de prison et du coup je l'ai fait dans les quatre sens, je connais par cœur la salle.
On a bien repéré.
J'ai fait le repérage, j'ai vu le garage où quelque part les gens vont se faire exécuter.
Et t'achètes ou
t'achètes le prix au mètre carré, peut-être pas dégueu.
Je crois que c'est pas dégueu, hein. C'est accessible.
Écoute, si on fait tomber quelques murs, je crois qu'on peut avoir Stéphane Plaza.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux problèmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une économie de décor. On est sur deux trois décors.
C'est pas la nature, c'est vraiment ça.
Il y a un petit côté, et même dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a des plans de coupe sur la nature. Il y a un truc intéressant, c'est de l'utilisation d'images d'archives de temps en temps, qui est plutôt bien utilisée. Et après, quand ils sont autour de leur ferme, c'est voilà, la ferme, le village, on est toujours, c'est toujours les mêmes plans, toujours au même endroit. Il y a un petit côté Jean-Michel Grand-Angle auquel il nous a habitués depuis quelques années, qui est bon.
Mais
voilà.
T'as raison, le fait qu'il y ait des images d'archives, vraiment, c'est incroyable quand même qu'on est devant le seul réalisateur au monde qui peut faire rimer Hitler avec Fougère. C'est...
je n'aurais pas osé cette blague.
Je ne sais pas si on est à la recherche de la punchline ou si on est juste fatigué. Mais alors, Hitler Fougère et Jean-Michel Grand-Angle, je suis un peu fan.
Mais c'est un film qu'on a aimé. Hein.
Et oui, il ouais. y avait
un. J'ai vu cet homme qui, pourtant, on ne pensait pas le capable de cœur. Je parle de David. s'essuyer une larme.
Non, c'est vraiment, j'ai trouvé pas... ça beau.
Et voilà. Il est sur la croisette, puisqu'il était là tout à l'heure à sa projection, et il non. était pris en photo. Il était là à sa projection, il est pris en photo. Alors, il n'a plus de barbe, il n'a pas de chapeau de cow-boy, il est,
alors, ça,
il
c'est une vraie info.
Absolument méconnaissable, mais il était à sa projection
et
tout à l'heure.
Et est-ce qu'il va monter les marches ?
Il a monté les marches.
En fait, il a monté les marches.
Il a monté les marches, il était à sa projection. Alors, monter les marches, j'ai pas vu les photos, quoi, mais il est dans la salle. Il est dans la salle.
Mais qu'est-ce qui se passe, cet homme qui était caché ? Mais tu vois, c'est l'urgence. C'est l'urgence, il se passe quelque chose.
J'ai hâte de le voir demain.
Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un coup à la Jeanne Calment que quelqu'un a pris son.
Moi, je pense, parce que vraiment, tu. J'ai dû lire vraiment les trucs en dessous parce que j'ai. Mais c'est lui, ça ? Mais il est. Tu peux pas le reconnaître, tu sais pas qui c'est. Tu le croises en Cannes, tu fais genre bonjour monsieur, quoi. Je ne sais pas qui est cette personne. Il est méconnaissable. Ah,
pas mal. Alors, moi, il y avait juste un dernier truc que je voulais dire sur le film. On parlait de Noémie Merlant comme potentiel prix d'interprétation féminine.
Mérité, sublime.
Et en fait, je trouve qu'avec ce film, il y a quelque chose qui aurait, à mon avis, pas trop pu être le cas depuis un moment. C'est avec les films de Malick, parce qu'il a tendance un peu, sur ses derniers films, à massacrer le travail de ses acteurs au montage. Enfin, pire exemple étant sans doute Ben Affleck dans À la Merveille. Après, je ne sais pas ce que donnait le travail à l'origine, mais voilà. Toujours est-il que August Diehl, qui est le personnage, enfin qui joue le personnage principal, est extraordinaire, je trouve, dans le film. Et on le voit à l'œuvre. Enfin, c'est un vrai gros candidat de prix d'interprétation si le film prétend pas à plus. Et en même temps, Malick a déjà une Palme d'Or. Il peut tout à fait faire la passe de deux. En tout cas, je pense que ça fait partie des premiers noms du côté masculin, en plus des acteurs des Misérables qui m'ont un peu...
Moi, c'est Antonio Banderas pour Almodovar. Il est extraordinaire.
Ouais. Et puis, quand j'y pense, il y a aussi l'acteur du Ken Loach. Enfin, bon, il y a quand même des gens
à Banderas. Ils se disent, on va le filer aussi à Almodovar de la même façon.
De quoi ?
De récompenser l'acteur récompenser. Ouais, non, lui.
Mais ils peuvent
se
faire comme la jurisprudence Vidadel, ouais. Où ils avaient fait une des palmes pour récompenser les actrices et Abdelatif Kechiche.
C'est possible. On le saura samedi. Ouais. En attendant, on a presque terminé avec cette émission. On voulait juste dire un petit mot sur Gaspard Noé, dont on est allé voir le film, le moyen métrage de 50 minutes en séance de minuit. Daniel, ça t'a pas mal énervé, je crois.
C'est nul. Non, c'est vraiment.
C'est un mot commençant.
Non, c'est vraiment pas bien. C'est les 10 premières minutes sont assez réjouissantes parce qu'on a Béatrice Dalle en full impro. Qui parle,
qui a dû être bien aidé par quelques verres avant pour se chauffer la voix.
Clairement, elle est. Oui, elle picole en même temps. Il y a Charlotte Gainsbourg, après quelques verres aussi, elle lui raconte comment un acteur lui a éjaculé sur la jambe. Enfin, vraiment, c'est ultra réjouissant de petites anecdotes.
Gross!
Ah non, mais elle en rigole et elle est presque touchée. Genre, je suis désolé, tu sais, elle est dans la vie comme elle joue, c'est-à-dire, elle parle doucement.
C'est un film quand même. Oui, bien sûr. C'est peut-être que tout ça est écrit par Gaspard Noé, probablement.
Peut-être que tout ça est écrit ou romancé et finalement on s'en fiche puisqu'en fait ils sont en train de monter une espèce de scène de bûcher
de sorcière,
de film de sorcière. Et
c'est là que je pensais aussi à Mona Chollet d'ailleurs.
Qui a l'air le sommet du kitsch, mais très très moche en fait. Et au bout d'un moment, ça part en vrille-vrille, et Béatrice Dalle se met à gueuler. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, en fait, elle est en train de résumer ce qui va arriver. Et après, ça vire en screensaver épileptique à un coup qu'il avait déjà fait plusieurs fois.
Ouais, sauf que là, il porte le truc vraiment au maximum, c'est-à-dire que les 10-15 dernières minutes du film, c'est l'écran qui clignote à très haute fréquence en rouge, vert, bleu. Ce qui fait écho à une sorte de carton qu'il y a en ouverture du film qui dit qu'il n'y a rien de plus jouissif que la seconde juste avant la crise d'épilepsie. Et donc voilà,
il faut dire que c'est
la logique.
C'est un très mauvais disclaimer, en plus écrit en lettres romaines. Si tu veux encore plus faire de victimes, tu l'écris en lettres gothiques.
C'est un faux disclaimer troll, quoi. Ça serait vraiment son délire. Enfin, il aurait bien aimé.
Mais c'est un film de troll, tu as très bien résumé ça.
Donc, il y a les deux côtés de Gaspard Noé. On avait vu, enfin, c'est à la fois un expérimentateur fou, à la fois quand même un très très bon cinéaste et qui est capable de, voilà, de créer de la forme de manière assez intéressante. D'un film à l'autre, on peut aimer ou pas aimer.
Ah, je réévalue à la hausse tout ce que j'ai vu hein, depuis.
Voilà,
que
là, on est plus dans le truc qui a l'air un peu fait par-dessous
c'est
la jambe.
Non, c'est bizarre ce lien avec Saint-Laurent, parce que, est-ce que c'est Saint-Laurent qui produit ce truc-là, qui s'occupe de la presse de ce truc-là, de la com de ce truc-là Et alors, ça va se poser la question de, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'était une commande pour Saint-Laurent? Est-ce que c'est une pub qui a dégénéré en court-métrage? Enfin, qu'est-ce que c'est?
Ça ressemble à quelque chose qui a dégénéré, en tout
What
cas.
What is it?
Est-ce qu'il a sous contrat, peut-être, les actrices? Je sais pas.
Habillées par Saint-Laurent dans le film, en tout cas.
Ouais. Ah. Okay, d'ailleurs,
elles sont fashion,
elles sont assez peu habillées d'ailleurs, mais voilà. Bon, moi, je crois que là-dessus,
tu n'as pas aimé.
Non, mais c'est, enfin, moi, je m'attendais pas à grand chose. J'aime bien qu'il essaye des trucs, qu'il se fasse plaisir, hein, ce petit Gaspard.
Fais ton plaisir, Gaspard.
Si ça lui fait du bien, c'est pas mon argent. donc voilà.
Tu t'adresses à lui comme si c'était un enfant et qu'il fait
des bêtises
avec les mains dans la peinture. C'est bien, mon petit.
Oh, ma loulou. Voilà.
Il y a un petit côté comme ça.
Allez le voir, mais.
Allez le voir, je sais pas trop où vous allez pouvoir le voir.
Non, mais surtout, faites attention aux crises d'épilepsie, vraiment. Ouais. Si vous
ne regardez pas seul chez vous, c'est tout.
Voilà. Bon, voilà. Allez, on est à mi-parcours de ce festival de Cannes, puisque plus que le mi-parcours, c'était le quatrième épisode. Merci beaucoup Perrine, merci Daniel, merci à tous d'avoir écouté.
Je vais essayer de courir aussi vite que Perrine pour essayer de rejoindre.
En talons.
Merci à la pluie de s'être arrêtée. Merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille et Juliette pour la prod. Retrouvez-nous jusqu'à la fin de ce festival de Cannes sur Binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. On devrait parler normalement de Bong Joon-ho et de Quentin Tarantino.
Ah oui,
oui, oui, oui, oui.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.